Bon, mais bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à Pas qui démarre sa sixième année cette année. Comme ça a été annoncé, nous parlerons de l'angoisse et du séminaire 10 de Jacques Lacan. Mais avant de passer dans le vif du sujet, je voudrais vous adresser quelques mots. D'abord vous dire que si nous sommes ici depuis 6 ans, c'est le fruit du travail d'une équipe. Et je voudrais, comme chaque début d'année, parce qu'il y a des nouveaux parmi vous, citer les personnes qui participent à cette équipe et aussi les remercier chaleureusement. Au niveau des autorités académiques, il y a Bernard Meny qui a permis il y a 6 ans que ce séminaire prenne place ici à l'université. Il y a aussi les personnes de l'extension chez qui vous avez pu vous inscrire, et particulièrement Madame Dauquier, avec qui vous aurez peut-être encore des contacts au niveau de tous les documents administratifs. Il y a aussi Monsieur Marc Labi qui est responsable de l'extension. Et puis il y a surtout Philippe Hellebois et l'ensemble des conférenciers qui sont tous psychanalystes dans le champ freudien, qui nous accompagnent depuis 6 ans et sans qui le cycle de conférences ici simplement n'aurait pas lieu d'être. Donc je voudrais vraiment les remercier une fois de plus de leur présence tout au long de cette année. Alors cette année, on a eu envie d'introduire un petit peu de nouveauté pour ceux qui connaissent le cycle. Pour ceux qui arrivent pour la première fois, ils découvriront la nouveauté immédiatement. La nouveauté tient au fait qu'on aura un petit peu moins de conférences sur l'année. On en aura 6 cette année, mais on aura à chaque fois la chance d'entendre 2 conférenciers qui se sont donné pour tâche d'articuler leurs propos autour d'une phrase clé qu'ils ont choisie, prise dans les séances que nous parcourons. Et donc ce sera leur lecture autour de cette phrase comme point pivot des séances que nous parcourons. Ça, c'est une première nouveauté. Et la deuxième nouveauté, c'est que, parce que nous avons eu plusieurs demandes, il est désormais possible de s'inscrire, je dirais, à la carte, à chaque conférence. Donc vous pouvez soit choisir le cycle, soit venir à telle ou telle conférence, selon ce que vous souhaitez. Alors, je voudrais aussi dire que j'ai l'habitude, en général, de vous accueillir en donnant un petit peu ce qui est l'actualité de l'école de la cause freudienne, puisque souvent on revient des journées de l'école, mais cette année, je voudrais particulièrement mettre l'accent sur quelque chose qui tient fort à cœur à notre communauté, dont vous avez peut-être entendu parler, si pas, c'est l'occasion en tout cas de porter ces événements-là à votre connaissance. Nous avons une collègue qui s'appelle Rafa Nachette et qui est syrienne, qui depuis le 10 septembre a été emprisonnée en Syrie, sur base d'une condamnation qui porte sur ses activités, parce qu'en Syrie, elle a ouvert un espace de parole où on pouvait exprimer son angoisse, sa peur, face aux événements qui se passaient dans le pays. Alors, cet espace de parole se voulait tout à fait apolitique, c'était juste un espace de parole, et c'est en tout cas le motif pour lequel elle a été emprisonnée. Il y a une très grande mobilisation de toute la communauté analytique de par le monde. Ça bouge absolument partout, dans tous les continents, pour prendre sa défense par tous les moyens possibles. Alors, un des moyens, et c'est le lien que je vous ai affiché au tableau, c'est un moyen très simple qui est déjà de signer une pétition pour demander sa libération. Donc si jamais vous vous sentez concerné par une question comme celle-là, ça peut paraître peu, mais de ce peu à peu, comme de ce pas à pas, on fait bouger des choses, parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui est à l'étude, et quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment aujourd'hui, un texte de résolution d'urgence, en faveur de sa libération aux communautés européennes, et ce texte sera mis au vote jeudi. Donc, c'est pas rien que de signer une pétition, ça permet de faire bouger les choses, et c'est grâce à la mobilisation qu'il y a eu que ce texte progresse et qu'il sera mis au vote afin de demander sa libération. Et je pense que cette démarche permet après au monde diplomatique de se mobiliser sur base d'un texte qui a été voté. Je crois que ce qui a été particulièrement visé dans son cas, c'est qu'elle ouvrait un espace de libre de parole. Et c'est pour cette liberté-là qu'il faut se mobiliser. Et pour elle, pour qu'elle sorte au plus vite, c'est une dame qui a 66 ans et qui a notamment des soucis de santé. Voilà, donc je tenais à attirer votre attention principalement pour Rafa Nachette cette année en ouvrant pas à pas. Alors, je vais peut-être encore dire une toute dernière chose pour les personnes qui nous rejoignent. Celles qui sont là depuis plusieurs années le savent. Mais il y a une particularité à laquelle je tiens beaucoup pas à pas et vous m'entendrez peut-être plus d'une fois le rappeler. C'est que, en fait, il existe à la fin des conférences un espace de débat et on compte vraiment sur vous, je compte vraiment sur vous pour interpeller, poser des questions aux conférenciers. C'est par les questions qu'on pose, il me semble qu'on progresse, qu'on attrape quelque chose de plus des séminaires de Lacan. Et pour les conférenciers, c'est toujours riche de reformuler quelque chose qui est peut-être resté sur le côté ou obscur pour certains. Et puis, vous devez surtout savoir que si vous posez une question, ça va servir toute l'Assemblée, parce qu'on a tous des questions. Il faut juste oser les poser. Donc voilà, je vous invite à le faire et à prendre le temps de le faire en fin de conférence. Alors, je vais vous présenter nos deux conférenciers. Nous entendrons aujourd'hui Philippe Hellebois qui va parler d'angoisse et éros, une thématique, mais dans cette thématique, il va partir d'une phrase en particulier. Philippe Hellebois est psychanalyste à Mons et il est également responsable au Courtil à Tournai d'une unité. C'est le Courtil Jeunes Adultes. Oui, voilà. Responsable thérapeutique au Courtil. Et Philippe Hellebois, je voudrais quand même donner un petit peu son actualité. On a la chance de pouvoir trouver depuis peu, puisque c'est sorti ce mois d'octobre aussi, son livre qui vient de paraître et qui s'appelle « Lacan, lecteur de Gide ». C'est édité aux éditions Michel et c'est dans la collection « Je est un autre ». Et donc, je vous invite à aller voir ce que Lacan disait de Gide et ce que Philippe Hellebois dit de Lacan et de Gide. Alors, nous accueillons aussi comme conférencier Guy Poblom, qui parlera autour de la phrase « Ce qui est craint, c'est la réussite », une phrase qu'on tient dans la séance 4 à la page 67. Alors, Guy Poblom est psychanalyste dans la région de Tournai. Il est également directeur thérapeutique au Courtil à Tournai et il est également enseignant au Collège clinique de Lille, tout comme Philippe Hellebois est enseignant et coordinateur de l'antenne clinique de Mons. Je pense qu'en disant ça, je vous ai présenté. Et Philippe, je te passe la parole.
Merci. Encore, oui, s'agissant de notre malheureuse collègue syrienne, là, il n'y a pas que le Parlement européen qui prépare une résolution. Je crois savoir que c'est une autre échelle, mais que le Conseil communal de Mons va aussi délibérer de la chose. On attend instamment, signera pas, qu'en tout cas, qu'Elio Di Rupo prenne parti, mais ça ne saurait tarder. Quand j'aurai des nouvelles, eh bien, enfin, ce n'est pas encore fait. Alors, angoisse et éros. Comme Anne le signale, c'est un fil qui... C'est une thématique, c'est l'un des fils qui traverse ce séminaire. Hein. Je me suis plutôt attribué ça en faisant le programme qu'une phrase principale, qu'une phrase précise. Néanmoins... comme tout le monde en a une, je m'en suis quand même attribué une ensuite que je vous lis et dont je parlerai dans la deuxième partie de mon texte. Lacan dit ceci, page 24, « Je ne vous développe pas une psychologie. c'est-à-dire un discours sur cette réalité irréelle qu'on appelle la psyché, mais sur une praxis qui mérite un nom, érotologie. Alors, avant d'en venir à la psychanalyse comme praxis, c'est très important, non pas un discours contemplatif sur une réalité quelconque, mais une pratique. Enfin, une praxis, c'est une pratique spéciale. Dénommée érotologie, je voudrais quand même vous situer d'abord ce séminaire L'Angoisse dans l'enseignement de Lacan. C'est le dixième séminaire de l'enseignement de Lacan, qui date des années 62-63. Tous les séminaires sont importants. Celui-là, son importance est constituée notamment par ceci, c'est qu'il constitue un pivot à la fois chronologique et logique. Chronologique parce que il s'agit du dernier séminaire que Lacan tiendra à l'hôpital Sainte-Anne, dans le service d'ailleurs du professeur Jean Delay, qui a aussi son importance, mais enfin je passe. Dernier séminaire qu'il fera à l'hôpital Sainte-Anne pour un groupe qu'il avait fondé, celui de la Société française de psychanalyse. Pourquoi serait-ce le dernier? Mais pour une raison qui est à la fois simple et scandaleuse. C'est que ce groupe, le groupe donc que Lacan a fait fonder et dans lequel il formait depuis 10 ans des analystes, eh bien ce groupe avait demandé sa réintégration dans l'IPA. L'IPA, c'était le grand mouvement international organisant la psychanalyse et que Freud avait créé avant de mourir. Et qui était à l'époque aux mains, notamment des Américains, et aussi de sa fille, Anna Freud. Eh bien, il avait demandé sa réintégration dans l'IPA. Pourquoi sa réintégration? Eh bien, tout simplement, c'est que 10 ans plus tôt, donc en 1952, Lacan avait quitté la société, la SPP, ce qu'on appelle la SPP, c'est donc la Société de psychanalyse de Paris, pour diverses raisons, mais disons dont les principales tenaient à la formation des analystes. Il y avait un grave désaccord sur ce point, avec notamment Marie Bonaparte, la célèbre princesse Marie Bonaparte, Sachanact. Et Lacan était parti avec d'autres, dont Françoise Dolto, que vous connaissez. Donc, pour situer les choses, Marie Bonaparte d'un côté, Lacan et Dolto de l'autre. Il quitte la SPP en 52-53. Et en quittant la SPP, ils ne savent pas qu'ils quittent en même temps l'IPA. Mais c'est néanmoins ce qu'ils font. Ils quittent l'IPA, ils sont donc dehors. Et pendant 10 ans, le groupe qui a quitté l'IPA, ils pensaient quitter la Société de psychanalyse de Paris. Et en quittant la Société de psychanalyse de Paris, ils quittaient en même temps l'IPA. Ils ne s'en étaient pas rendu compte. C'est une bévue, mais c'est comme ça. Et donc, ce groupe a vécu dans la nostalgie de l'IPA, en tout cas dans un désir très fort de réintégration dans l'IPA. Donc, pendant toutes ces années, sont toutes des années de négociations, et l'IPA finalement accepte la réintégration du groupe français, du groupe de Lacan, à une seule condition, c'est là le scandale. Que Lacan ne soit plus didacticien, qu'il ne forme plus aucun analyste, ce qui veut donc dire qu'il se taise, parce que ce séminaire servait à ça. À la formation des analystes. Bon. Alors, c'était donc un long processus de négociation qui a duré plusieurs années et qui, au moment où Lacan tient ce séminaire, ce processus de négociation se clôt. On est dans les derniers mois. Et il aboutira à l'automne 63, donc quelques mois après la fin de ce séminaire, par la mise au banc de Lacan de l'IPA, à laquelle Lacan va réagir de la meilleure façon qui soit. C'est-à-dire que Lacan est vraiment à ce moment-là devenu lacanien. C'est-à-dire que loin de se taire, il va développer son propre enseignement, s'émancipant du commentaire de Freud auquel il s'était astreint jusque-là. Si on connaît Lacan, maintenant, c'est notamment grâce au fait qu'il était exclu de l'IPA en 63. À partir de ce moment-là, Lacan a littéralement pris son envol. Parce que, en effet, en janvier 64, changement de monde, changement d'adresse. Lacan tient son fameux séminaire des 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse dans un autre lieu et qui change tout. Ce n'est plus l'hôpital Sainte-Anne, pour des analystes en formation et des psychiatres qui le sont aussi. Donc vous voyez comme ça le monde confiné. Lacan pouvait d'ailleurs dire que ce public était d'une ignorance absolument fabuleuse. Eh bien, changement de monde, ce séminaire se tient à l'École normale supérieure. Et ce séminaire sera le premier qui sera publié. Par qui ? Ben, notamment Jacques-Alain Miller. C'est à cette occasion-là qu'il a rencontré Jacques-Alain Miller pour la première fois. Donc, ironie de l'histoire, Lacan a été exclu de l'IPA et il en est devenu d'autant plus lui-même. La première leçon de ce séminaire 11 s'appelle l'excommunication, Miller l'a appelé comme ça, et c'est celle où Lacan constate qu'il a été véritablement négocié, dit-il, y compris par certains de ses analysants. Faisons taire Lacan, ont-ils pensé, et pour prix. Et en échange, nous deviendrons des notables. C'est d'autant plus drôle que ces mêmes individus formés par Lacan, qui ont été en analyse chez Lacan, qui l'ont négocié en échange de leur reconnaissance par l'IPA, eh bien, connaîtront à l'IPA un grand succès, parce qu'ils ont été formés par Lacan. Je vise quelqu'un de très précis, qui est Daniel Videlocher, par exemple, qui est devenu président de l'IPA quelques années plus tard, et qui a l'habitude, semble-t-il, de quitter le monde qu'il a fait vivre jusque-là, parce qu'il ne s'en est pas tenu là maintenant. Quelque temps après, comme vous savez, il est devenu extrêmement prof des comportementalistes. Donc, Lacan va trouver à l'affaire, il faut dire qu'il a été le seul à l'époque, il a même trouvé à l'affaire un côté, non pas sordide, mais comique. Tenant non pas au fait d'être négocié, ça peut être après tout sordide, mais du fait de la dissolution des semblants, le comique tenait à ça, c'est que il apparaissait comme un objet négocié, non pas comme un maître splendide, non pas comme un maître glorieux, mais comme un vil objet de troc. Il dit la dissolution des semblants, laissant apparaître ça, eh bien, disait-il, c'est là qu'est le ressort du comique pur. Je vous dis ça seulement pour situer que l'excommunication de Lacan, eh bien, lui a fait à Lacan beaucoup de bien. Au point d'ailleurs que Miller n'a pas hésité un peu plus tard à dire finalement qu'il l'avait cherché. Il l'avait cherché sur un mode inconscient. Parce que quand on s'appelle Lacan, quitter une association et ne pas s'apercevoir qu'en envoyant une lettre de démission, eh bien, on démissionne aussi de l'ensemble plus gros qui englobe l'ensemble plus petit qu'on quitte, c'est vraiment un acte manqué. Enfin, un acte manqué réussi quand on voit ce que Lacan est devenu. Parce que Lacan s'est trouvé, il faut bien dire, libéré d'un monde compassé qui ne lui allait pas du tout. Alors, cette excommunication a donc fait beaucoup de bien à Lacan et beaucoup de mal à ceux qui l'ont poussé dehors. C'est que trahissant Lacan, ils se trahissaient eux-mêmes. Et certains ne firent après ça plus qu'errer sans plus tellement de raisons de vivre, en tout cas de raisons de travailler, même d'être analyste, parce qu'ils étaient tout simplement coupés eux-mêmes de leurs signifiants fondamentaux. Alors, ce triste sort a été celui de quelqu'un qu'on connaît moins maintenant et pour cause, qui est Vladimir Granov, par exemple, qui a écrit dans un livre qui est paru il y a quelques années qu'il ne s'en était jamais remis. À ce niveau-là, c'est assez poignant d'ailleurs. Il reste que donc, périodiquement, quand une voix s'élève du côté de l'IPA pour parler de nous, c'est rare. Il y a, je pense, un ou deux collègues de l'IPA à Mons, je ne sais même pas qui c'est. Si je les croise en rue, je pense que je ne le reconnais pas. On ne se connaît vraiment pas, on se parle moins encore. Eh bien, c'est pour dire que ce sont deux mondes séparés. Eh bien, donc, quand une voix s'élève du côté de l'IPA pour parler de nous, les Lacaniens, il y a quelqu'un qui fait ça quand même de temps en temps. Il n'est pas montois, il est parisien, donc il pense beaucoup plus souvent à nous. Eh bien, c'est André Green. Eh bien, c'est pour dire assez souvent que nous sommes au bord du gouffre. Ça m'a toujours fait rire parce que c'est aussi ce qu'on disait dans les anciens pays de l'Est, à propos du capitalisme. Le capitalisme est au bord du gouffre. Eh bien, ceux qui disent que nous sommes au bord du gouffre, je leur propose de se rappeler cette blague, ce vite qu'on disait dans certaines capitales des pays de l'Est. Je pense que c'est à Moscou, on s'amusait beaucoup de ça. Pourquoi dit-on que le lacanisme, vous remplacez le capitalisme par lacanisme, donc pourquoi dit-on que le lacanisme est au bord du gouffre? Mais tout simplement pour nous voir de plus près. Donc, ce que les capitalistes, enfin c'est ce que les communistes disent, pourquoi le capitalisme est au bord du gouffre? C'est pour nous voir de plus près, effectivement. C'est de ça qui se passe. Il reste que donc que ces péripéties, dont je vous parle que pour situer donc le séminaire dans son histoire, ces péripéties sont dépassées aujourd'hui. Lacan est menacé comme toujours, comme Freud l'avait été lui-même, comme Freud du reste l'avait annoncé, nous serons toujours menacés, toujours vilipendés, toujours insultés, on connaît la chanson. Mais Lacan n'est pas menacé par d'autres analystes, ça, il y a une dimension folklorique tout de même, mais par le monde d'aujourd'hui. La menace pèse sur la psychanalyse même, l'évaluation, les règlements bureaucratiques, etc. Voilà pour la chronologie. Donc, ce qui situe ce séminaire dans l'histoire. C'est assez remarquable que pendant tout ce temps où Lacan pouvait être négocié, vous imaginez le contexte à la fois moral, enfin, ça devait être invivable. Lacan, à ce niveau-là, est très zen, très solide. On sent quelques allusions, mais elles sont rares. Et ça ne l'empêche pas de faire un séminaire formidable, d'une tenue, etc. Enfin, il faut... On parle de ces événements, finalement, plus que lui. Bon, la logique maintenant. Pourquoi est-ce que ce séminaire est donc un pivot, mais un pivot logique dans l'enseignement de Lacan? Eh bien, c'est que Lacan continue, donc pas à pas, à suivre le sillon qui est le sien. Poursuivi toujours par la même inquiétude, qui consiste à définir, cerner, tirer au clair ce dont il s'agit à propos du réel. Qu'est-ce que le réel? Comment intervient-il dans notre pratique? On peut dire que c'est une question qui taraude Lacan très tôt. Nous vous avions déjà présenté les choses l'an dernier, en abordant le séminaire sur l'éthique de la psychanalyse, en disant que c'était le premier où Lacan abordait la question du réel de front. Et que c'est un séminaire donc qui succédait au Lacan classique qu'on appelle structuraliste, celui qui donnait tout le pouvoir, la majeure partie du pouvoir au signifiant. C'est de cette époque que datent ces grandes formules, l'inconscient est structuré comme un langage, un sujet est représenté par un signifiant pour un autre signifiant, etc. Le Lacan classique, structuraliste, donnant tout le pouvoir au signifiant, eh bien, succédait à son premier effort qui avait consisté à une mise en ordre de l'imaginaire avec le fameux stade du miroir. Donc, le mouvement, je vous dis ça pour situer le mouvement de l'enseignement de Lacan, c'est qu'au fur et à mesure du déroulement de cet enseignement, eh bien, il va être amené à serrer de plus en plus près, eh bien, autre chose, non plus l'imaginaire, non plus le symbolique, mais le registre du réel. Il va trouver encore, il va tellement trouver qu'il va d'ailleurs cesser de se contredire, Hôtel enseigne que ces grandes formules canoniques que je vous cite, l'inconscient est structuré comme un langage. Lacan ne va pas changer d'avis, c'est pas son genre. Il va pas dire cette formule-là, j'ai dit ça hier, je ne dis plus ça aujourd'hui, pas du tout. Il a toujours gardé la même formule, mais sauf que le mouvement de son enseignement, ça va être de donner à cette formule un sens tout à fait contraire à ce qu'elle avait premièrement. Le signifiant va toujours garder la même importance, mais il ne voudra plus dire la même chose. Quand on y pense, c'est un tour de force. Garder en place les mêmes éléments et leur faire signifier tout à fait autre chose. Donc, dans l'éthique de la psychanalyse, il abordait de façon frontale la question du réel. Il l'appelait à l'époque la chose, rappelez-vous, Das Ding. Le séminaire sur l'angoisse va être caractérisé, lui, par ceci. C'est que le réel n'est plus cette zone massive, peu maniable, dont nous sommes séparés par la loi et le principe de plaisir, qui était cette zone dite de la chose, mais un objet, un objet au cœur de nous-mêmes. Un objet au cœur de nous-mêmes, mais inaccessible. Cet objet, il l'appellera l'objet petit a. Vous écrivez ça comme ça, objet, et à côté, vous écrivez le petit a. Façon, pourquoi est-ce qu'il l'appelait comme ça? Pour une raison bien simple, pour ne pas lui donner de nom. Parce que comme c'est le réel, forcément, ça n'a pas de nom. Il ne saurait avoir de nom, puisqu'il s'agit de réel. Le point de départ de Lacan dans ce séminaire, je pense qu'on peut le dire simplement. L'angoisse n'est pas sans objet. Comme le disent peut-être encore, ça je ne sais pas, les psychologues. Ce n'est pas une peur sans objet. L'angoisse apparaît sans objet parce que cet objet est bizarre, obscur, il échappe au signifiant. Rappelez-vous ce que nous disions de la phobie quand on avait abordé le séminaire 4 consacré aux petites anses. C'est une façon, la phobie est une façon de transformer l'angoisse obscure, indistincte, qui laisse le sujet sans voix, mais de transformer cette angoisse en peur. Autrement dit, de la nommer. Si l'angoissé ne peut rien dire, le phobique peut dire qu'il a peur du cheval. En l'occurrence, Hans a peur du cheval. L'angoisse où se trouvait le petit enfant devenait donc peur du cheval. Mais cette angoisse, alors, quel est son objet? On dit qu'elle n'est pas sans objet, mais quel est l'objet de l'angoisse? Réponse, qui n'est pas une réponse de Normand, mais qui est une réponse, celle de Lacan, rigoureuse en tout cas, ben, cette réponse, quel est l'objet de l'angoisse? Eh bien, c'est l'objet petit a. Qu'est-ce que l'objet petit a? Un bout de réel. Non plus le réel indistinct, sur lequel on se cogne, qu'on ne peut pas manier, mais un petit bout. Façon donc de nommer ce que je vous disais, ce qui ne se nomme pas. C'est dire que l'angoisse n'est pas un phénomène imaginaire comme la peur, mais pour Lacan, le signe du réel. C'est la thèse forte qu'il faut retenir de ce séminaire. C'est que l'angoisse est le signe du réel. Lacan n'arrivera pas à cette formule tout de suite. Il va en faire, dès la deuxième séance, il en fait le signe du désir. Le signe du désir de l'autre. Parce que on est dans un véritable enseignement, donc ce que Lacan peut dire un jour, il continue à élaborer, et puis il y a des inflexions, il y a des inflexions qui changent un peu les choses. La thèse forte, reprise à Freud, au texte célèbre de Freud qui est Inhibition, symptômes et angoisse, qui est le texte de Freud qu'on peut, c'est très enseignant de lire. Les deux textes en regard, l'inhibition, symptômes et angoisse, et le séminaire sur l'angoisse. La thèse forte reprise à Freud, donc, c'est de faire de l'angoisse la réponse du moi devant l'exigence pulsionnelle. L'exigence pulsionnelle, c'est un terme freudien. Lacan fait plutôt de cette exigence pulsionnelle, c'est là qu'il situe le réel. Cette exigence pulsionnelle est angoissante. Pourquoi? Après tout, ça ne va pas de soi. D'être sans fin, d'être infini. Rappelez-vous comment Freud définissait la pulsion. C'est quelque chose de constant. C'est pour ça que la pulsion n'est en aucun cas un instinct. Personne n'a jamais été tourmenté par son instinct. Tout simplement parce que de l'instinct, vous n'en avez plus. Vous avez une pulsion qui est, ne vous laisse pas tranquille. Par contre, un animal, en général, son instinct ne le tourmente pas. Tout simplement, de temps en temps, ça le saisit à date fixe, et le reste du temps, ça le laisse tranquille. Donc, d'être sans fin, elle déborde le moi. D'où cette situation, disait Freud, de détresse. Et obscure. Donc elle déborde le moi, elle est sans fin, elle est aussi obscure. Raison pour laquelle Lacan, évidemment, là, la réfère là au désir de l'autre. Reprenons le cas du petit ange, simplement. Vous savez, rappelez-vous, pour ceux qui étaient là, il n'avait pas peur de son père, il n'avait pas assez peur de son père, en tout cas. Ce qui veut dire que le petit ange se retrouvait très proche, trop proche. On va dire livré, mais dans une complicité sans obstacle, sans assez d'obstacles, avec le désir de sa mère. Le désir de la mère. Prenez le désir de la mère au sens où vous le voulez, génitif, objectif ou subjectif. Est-ce que c'est la mère? Est-ce que c'est lui qui veut la mère? Ou est-ce que c'est la mère qui le désire ou lui qui désire la mère? En tout cas, le désir de la mère avait la voie libre. Et donc, où s'arrêterait-il? Où sa mère pourrait-elle l'emmener? Eh bien, donc, comme il n'y a pas de limite à l'endroit où elle pouvait l'emmener, eh bien, le petit ange s'est mis à avoir peur du cheval. Ce que Lacan fait remarquer, c'est que cette phobie le saisit pendant des moments où sa mère l'emmenait en promenade. Il fait bien remarquer que elle pouvait l'emmener à l'infini. Et donc, le petit ange s'est mis à avoir peur du cheval, ce qui empêchait sa mère de l'emmener n'importe où. Du moins, ça a mis quelques... Ça a mis des bâtons dans les roues des circuits dans lesquels pouvait l'emmener sa mère. Bon. Donc, qu'y a-t-il d'autre? Où est-ce que j'en suis? Alors, l'autre test fort de séminaire sur l'angoisse est de faire de l'angoisse un en deçà du désir. Qu'y a-t-il d'autre que le désir? Réponse, vous pourriez le dire vous-même, l'amour. Bon, qu'y a-t-il d'autre que le désir et l'amour dans ce cas-là? Vous pourriez encore le répondre, la jouissance. Ces termes vous semblent maintenant évidents. Mais il a fallu du temps à Lacan pour les amener de façon raisonnée, c'est-à-dire à montrer la différence. Non pas tout et dans tout, mais montrer comment il se positionne l'un par rapport à l'autre. Il avait commencé avec l'amour et le désir, faisant de l'amour une espèce de sublimation du désir, d'exponentiation du désir. En tout cas, je dis aussi de sublimation, parce que si le désir était déjà dans les débuts de l'enseignement de Lacan, ce qu'on ne pouvait pas dire, ce qui échappait au signifiant. Le désir était articulé, dit-il. Comment disait-il ça? On ne peut pas l'articuler. Le désir est articulé, pourtant, on ne peut pas l'énoncer. Il y a une formule qui m'échappe. Le désir est articulé. Enfin bon, on ne peut pas l'articuler. Pourtant, il l'est. C'est une formule étonnante, mais qui indiquait que, bon, il y avait une articulation du désir, mais qu'on ne peut pas énoncer. Au contraire de l'amour, donc. L'amour... Ça, vous savez bien que l'amour, ça passe toujours. Ça, on a toujours pu parler d'amour, on n'a même jamais pu faire que ça. Et donc, dans ces deux termes au départ, qui au début d'ailleurs étaient donc, vous savez, très proches, voisins, liés à l'autre. Il a fallu le texte, comme Anne me fait le plaisir de parler de livre de Gide. C'est dans l'occasion de ce texte sur Gide que Lacan a séparé pour la première fois l'amour et le désir, montrant que l'un était absolument tout à fait différent de l'autre. Et l'amour n'était plus la sublimation du désir. C'est une raison pour laquelle je vous ai mis au tableau ce schéma-là. Où vous voyez donc... dans ce nouvel enseignement de Lacan, sa nouvelle configuration qui l'amène, il n'y a plus le désir et de l'amour, où là apparaît dans le fond, d'une certaine façon, l'élucidation du premier, l'amour comme élucidation du désir, pas du tout. La jouissance apparaît là en troisième terme. Mais du coup, tout ça se distribue autrement. Il n'y a pas l'amour dont on peut dire quelque chose, le désir dont on peut moins en dire, et puis la jouissance dont on ne peut rien dire du tout. Et sans doute on progresserait comme ça pas à pas. Non. Lacan considère dans ce séminaire que la jouissance est première. que la jouissance, d'une certaine façon, ça ne changera plus jusqu'à la fin de son enseignement. La jouissance est première et elle... elle nourrit, en tout cas, elle nourrit, ou là, on pourrait dire que l'amour et l'angoisse sont deux réponses différentes à la jouissance, deux traitements de la jouissance. L'angoisse, c'est très freudien, est donc une réponse du moi devant une volonté de jouissance, la pulsion, ce qui est au cœur du sujet. C'est une réponse. Et donc l'angoisse, on peut déjà voir ça comme un traitement, parce qu'elle métabolise, diminue, transforme la jouissance. C'est aussi un affect, disait-on. Et on reprochait à Lacan de ne jamais s'occuper des affects. C'est donc un affect, un signal, connotant la rencontre de la jouissance. Il y a angoisse parce qu'il y a rencontre de la jouissance et du signifiant. C'est une espèce de feu rouge. Alors, comment démontrer rapidement que l'amour et l'angoisse peuvent être deux traitements de la jouissance? Donc que les deux peuvent être productifs. C'est l'une des thèses de Lacan, c'est que l'angoisse est productive. Un peu d'angoisse, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça vous civilise, ça civilise le sujet. Et ça l'arrête, autrement dit, sur le chemin de la jouissance. L'angoisse transforme la jouissance en cause du désir. C'est l'une des thèses de ce séminaire. Comment comprendre ça? Pensez par exemple à l'angoisse qui fait travailler. Certains ne peuvent travailler que sous angoisse. C'est seulement ce qui peut les arrêter, ce qui peut les animer, les réveiller. Et donc, travaillant sous angoisse, qu'est-ce qu'elle fait, l'angoisse? Elle transforme la jouissance première, qui n'amenait rien, eh bien, elle vous fait produire un certain travail. Un exposé, par exemple. Autrement dit, au début, il n'y avait rien, le sujet qui jouit en silence. Et à la fin, eh bien, il y a quelqu'un qui parle un peu plus, mais qui a fait un exposé, tout à fait grâce à l'angoisse. Raison pour laquelle, par exemple, certains ne peuvent écrire leur texte que quelques heures avant un exposé, avant une conférence. Faire les exposés 3 mois à l'avance, il faut se faire des piqûres. Mais voilà pour le côté gauche du schéma. Mais le côté droit, dans le fond, l'amour transforme la jouissance. Ça, je pense qu'on comprend mieux. L'amour est productif. Du moins, la partie féminine de l'assistance comprend vraiment que l'amour, là, civilise la jouissance. Absolument. Il y a une formule de ce que vous trouverez dans ce séminaire et ce schéma l'éclaircit. Lacan dit que c'est tout à fait évident et quand il le dit, on ne comprend pas. L'amour est ce qui permet à la jouissance de condescendre au désir. Quand on le dit comme ça, maintenant, je pense que ça devient évident. L'amour est ce qui permet, transforme la jouissance, en désir, c'est-à-dire, pourquoi le terme de condescendance? Parce que elle introduit dans une jouissance, on pourrait dire pleine, une façon de dire, elle introduit un manque. L'amour, ça c'est la face, on peut dire que l'amour introduit un manque, on peut trouver ça bien, dire que c'est la voie de la civilisation, etc., et on joue un peu de violon, on fait des poèmes, etc., c'est bien. Ça, c'est la face enchantée de la chose, la face enchantée de l'amour. Il y a une face de l'amour qui, parfois, est plus dure à supporter, notamment pour la partie masculine de l'humanité, c'est cette introduction du manque. C'est que l'amour introduit la castration. C'est l'autre formule célèbre sur l'amour que vous connaissez maintenant, depuis que vous venez à pas, c'est que vous savez ce que c'est que l'amour, je pourrais prendre le micro. L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas. Autrement dit, ça introduit un manque. Lacan ira même dire plus tard que l'extrême de la jouissance féminine, qui est donc tissée dans l'amour, c'est le fantasme de tuer l'homme. Il dit ça à propos de l'empire des sens. Mais ça se retrouve déjà ici. L'amour, c'est ce qui permet à la jouissance de condescendre au désir. Voilà. Amusez-vous bien. Alors, donc, je vais maintenant faire, si Anne me laisse encore le temps de terminer. Donc, pour commenter brièvement la phrase que je vous ai citée en commençant, donc, je ne vous développe pas une psychologie, mais c'est-à-dire un discours sur une un discours sur cette réalité qu'on a irréelle, qu'on appelle la psyché, mais sur une praxis qui mérite un nom, l'érotologie. Quel est le rapport entre angoisse et éros? Mais si mon introduction était assez claire, maintenant c'est un peu plus clair que l'angoisse et éros ont un rapport. Même si éros est joyeux et l'angoisse jamais. Si ce que je viens de dire a servi à quelque chose, ça doit être moins opaque, c'est que éros est angoissant quand il prend sa source dans la pulsion et quand il n'est plus seulement au service du principe de plaisir. Donc quand il s'abreuve à la jouissance et non pas au plaisir. Le plaisir, c'est ça, c'est une jouissance un peu mise en boîte, comprimée. Je ne vous développe pas une psychologie, dit Lacan, un discours sur cette réalité irréelle, sur une réalité irréelle, qui serait donc la psyché. La réalité, alors, dans cette phrase-là, il y a quelques termes à retenir. C'est la réalité, d'abord. La réalité n'est pas le réel, mais un fantasme. C'est-à-dire la façon dont vous, dont moi, voyons le monde. On croit que la réalité, on dit toujours la réalité, on ferait toujours dire ta réalité, il faudrait toujours singulariser ça, parce que la réalité, on croit qu'elle existe identique pour tous, qu'il y a une réalité commune. C'est très drôle parce qu'il suffit d'assister au même événement, d'assister à la même conversation, à la même conférence, de voir le même film, etc. et de voir ensuite ce que tel ou tel en dit. Ça ne se ressemble pas. Ce qui me venait pour illustrer ça, par exemple, c'est, à Dieu ne plaise, mais séparez-vous de votre conjoint et vous verrez combien la réalité que vous avez crue commune n'a jamais existé que dans votre esprit. La réalité est toujours irréelle. C'est le voile que vous mettez devant le réel. Surtout quand il s'agit de la psyché. La psyché, c'est quoi? C'est l'âme. Et ce n'est pas pour rien que c'est aussi le nom qu'on donne à un miroir. Comme réalité réelle, on ne fait pas mieux. La psychanalyse, ça veut quelque chose que je trouve important, enfin, pourtant pour moi, n'est pas un discours sur une représentation. Gide appelait ça les représentations, Gide appelait ça les idées en carton. J'aime bien cette expression. J'ai vu tel poète, dit-il, et nous avons parlé, une conversation très intéressante pendant 2 heures, dit-il dans son journal. Nous avons échangé des idées en carton. Donc, ça c'est une représentation. C'est une perspective plutôt contemplative, et donc toujours bavarde. Mais une praxis. C'est quoi une praxis? C'est une pratique. Mais qui vise un résultat. Et c'est une pratique orientée par un concept. Ce n'est pas une routine, ce n'est pas une habitude au petit bonheur. Ce n'est pas une habitude qu'on fait comme ça, au petit bonheur la chance. Non, c'est une praxis donc qui est orientée par un concept. Et ce n'est pas davantage une connaissance. Pour le dire encore autrement, enfin en tout cas, il y a une tension donc, quand on dit praxis. Il y a une pratique parce que ça peut entraîner comme routine. Bon, d'un côté, et de l'autre, il y a la tension, évidemment, de la pensée, du concept. Pour le dire encore autrement, la psychanalyse est une expérience, et non pas une représentation de l'appareil psychique. Nous savons bien que certains ne rêvent que de tirer la psychanalyse du côté représentation de l'appareil psychique. Certains, je ne m'amuse pas à faire de la polémique, je vise qui quand je dis certains? Eh bien, l'air du temps. Ça peut être même vous et moi. C'est-à-dire la faction de fonctionner de la pensée contemporaine. Celle-ci, en effet, ne voit plus les choses en termes d'expérience que l'on vit. La société médiévale, par exemple, ne se représentait pas pour le sujet. la société médiévale essayait peut-être de se représenter, mais pas pour le sujet. Le sujet existait-il ? Elle existe. La société médiévale se représentait pour Dieu. Vous trouvez dans beaucoup de cathédrales, par exemple, une série de vitraux que personne n'a jamais vu, enfin qu'aucun fidèle de l'époque n'a jamais vu, parce que pour les voir, il faut monter. Il faut monter très haut, il faut faire des travaux, etc. Il y a une série de vitraux, par exemple, que Dieu est le seul à voir. C'est pour Dieu qu'il pouvait y avoir des représentations, pas pour le sujet humain. À partir de Descartes, changement. Le monde devient une représentation pour le sujet. Et donc, comme le monde est une représentation, je ne vis pas. Je juge, j'évalue, je donne mon avis. Je fais le penseur, je pense, je jauge, je pense, donc je suis. L'être en question n'est là plus qu'une entité dépendant tout entièrement de la pensée et donc d'une représentation. Je vous dis ça parce que expérience et représentation, c'est vraiment un binôme de termes contradictoires. Et ils doivent le rester, ils doivent s'opposer comme chien et chat. Ce n'est pas à dire qu'il n'y a pas de représentation dans la psychanalyse. La littérature analytique, c'est peut-être une représentation après tout. Le savoir clinique, névrose, psychose, c'est important comme critère, comme concept. Pourtant, c'est une représentation. Névrose, psychose, ça n'existe pas dans le réel, n'est-ce pas ? Il n'y a pas névrose et psychose que vous allez rencontrer dans le réel. Donc, si ça existe dans le réel, c'est bien. Il vous suffit de le trouver. Mais ça n'existe pas. Vous rencontrez des sujets. Névrose et psychose, on va le dire comme ça, c'est que ça vous sert. Ce sont des outils qui doivent vous servir à voir comment tel ou tel sujet se débrouille dans l'existence, comment il fonctionne. Il n'y a pas des entités toutes limpides qui se promènent dans le réel, incarnées dans tel et tel sujet. Quand on reconnaît dans un sujet vraiment ce qu'on a lu dans son bouquin le week-end d'avant, méfiez-vous. Méfiez-vous, c'est que vous êtes occupé à rater quelque chose. Vous êtes occupé à vous mettre dedans. Donc je ne dis pas que les représentations sont nocives, il faut seulement en faire le bon usage. Et le bon usage, je pense, que c'est de considérer qu'elles sont rigoureusement, mais rigoureusement soumises à l'expérience. Si on fait une hiérarchie, l'expérience est première, la représentation est seconde. C'est l'expérience qui décide des représentations que l'on se fait. Il faut bien sûr penser l'expérience. Je ne fais pas un discours, un éloge de l'obscurantisme. Il faut penser l'expérience. Mais surtout, ne pas expérimenter la pensée. C'est que pour penser l'expérience, il faut l'avoir vécue. Raison pour laquelle la psychanalyse ne s'apprend que partiellement sur les bancs de l'université. On n'a rien contre elle. On en fait aussi, on y est. Mais elle ne suffit pas et ne saurait suffire. En effet, où allez-vous aller en analyse pour vivre cette expérience ? C'est un choix. On sait bien que c'est un choix inconscient, symptomatique. Il ne peut pas y en avoir d'autre. Personne ne peut le faire pour vous. Pourtant, vous ne pouvez pas choisir vos... On ne voit pas une université fonctionnant, vous ne pouvez pas choisir vos professeurs. Ce n'est pas possible. Donc, en même temps, il faut penser l'expérience, parce que l'expérience a quelque chose qui tourne tout seul. Ça peut être fascinant. Si on se contente uniquement de voir l'expérience tourner toute seule, ça ne va pas non plus. Il faut penser l'expérience. Il faut penser l'expérience. Parce que expérimenter la pensée, c'est un désastre. Parce que ça transforme tout simplement les gens en Kobe. De le dire comme ça. Ça équivaut tout simplement à pratiquer non pas la psychanalyse, mais la suggestion. C'est donc une assaise, Anne, j'ai fini, mais à laquelle il faut se tenir donc si on veut faire de la psychanalyse. Parce que la psychanalyse, ça, c'est vraiment ça, c'est quand même, c'est penser l'expérience qui se passe. Alors maintenant, l'érotologie. Le dictionnaire vous présente l'érotologie comme un discours sur l'amour physique. C'est vague, mais ça peut convenir donc pour une introduction, puisque l'on peut y mettre dans ce terme amour physique, eh bien tout ce que l'on fait avec son corps pour jouir. Encore aussi une petite nuance, et là je m'arrête, c'est que ce réel, le réel pulsionnel, Freud appelait ça l'exigence pulsionnelle, le réel que Lacan reconnaît dans cette exigence pulsionnelle, ce n'est pas seulement un corps qui jouit. Bien sûr, il faut un corps pour jouir. Comme le disait Jacques Alain Miller dans son cours qui va bientôt être publié, eh bien, celui d'année dernière, un corps qui jouit. Ça, il dit, là, on est dans le porno. Un corps qui jouit, le porno, c'est ça. Il dit, en fait, Freud, c'est pas le porno, quoi qu'on dise. Quand on est dans le Freudo et non pas dans le porno, eh bien, on considère non pas que c'est le corps qui jouit, mais c'est un corps qui se jouit. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose vraiment, il y a là vraiment une source pulsionnelle à l'intérieur du corps propre et qui fait la vie même du sujet. Bon, voilà.
Merci beaucoup, Philippe. Je passe directement la parole à Guy Poblom et on prendra un petit temps de débat par après.
Bien. Bon, j'ai pour ma part à commenter donc une phrase précise, donc prélevée donc dans ce séminaire de l'angoisse à la page 67 du chapitre 4. Ce qui est craint, c'est la réussite. Lacan utilise le terme craindre, mais il se trouve tout à fait articulé à l'angoisse. La perspective de réussir entraîne l'angoisse, ou la réussite elle-même entraîne l'angoisse. Cette crainte de la réussite est articulée par Lacan et par Freud avant lui au surmoi. Voici la phrase complète. L'amour du surmoi, avec tout ce qu'il est censé comporter dans la voie dite de l'échec, qu'est-ce que cela veut-il dire? Sinon que ce qui est craint, c'est la réussite. Il me faudra tenter d'éclairer cette phrase dans son rapport avec l'objet de ce séminaire qui est l'angoisse. Que vise Lacan avec ce séminaire? J'ai aussi ma petite introduction. Bon, j'espère que ça ne va pas trop répéter, mais enfin, j'ai dû en passer par là pour pouvoir arriver à commenter cette phrase. Donc jusque-là, l'enseignement de Lacan était tout entier articulé au symbolique, au signifiant, sauf le séminaire sur l'éthique, comme l'a signalé Philippe. Avec le structuralisme, Lacan a redoré le blason de l'interprétation du rêve, du mot d'esprit, de la pathologie de la vie quotidienne. Tout est devenu symbolique. Le symptôme, comme vérité, le désir, les objets, la pulsion, même la pulsion de mort. C'est le règne du symbole, de la métaphore paternelle et de la métonymie du désir. Ce règne du symbole tourne autour d'un vide central, d'un manque. Le sujet est barré du fait d'être représenté par un signifiant pour un autre signifiant. Son être échappe. Quelque chose de son vivant est négativé, donc du côté du sujet, et de l'autre côté, du côté de l'autre, avec un grand A, l'ordre symbolique, est tout autant barré, puisqu'il manque dans l'autre le signifiant pour dire le mot de la fin. Il n'y a jamais le mot de la fin. Un signifiant renvoie perpétuellement à un autre signifiant. Ce manque central a été repéré par Freud et repris par Lacan comme complexe de castration, moteur de la relation entre les sexes, dans une dialectique entre le symbolique et l'imaginaire, ce dernier registre, donc l'imaginaire, constituant le champ de ce qui ressortit à l'éros. Eh bien, donc, le séminaire de l'angoisse opère un virage. C'est que qui dit division, donc sujet divisé, autre barré, etc., donc qui dit division, dit reste. Nous sommes tous allés sur les bancs de l'école pour apprendre ça. Il y a quelque chose qui ne passe pas par la moulinette du langage, qui échappe, qui est d'un autre ordre. Et pour l'appréhender, Lacan se sert non pas d'un concept, le concept qui a une valeur éminemment symbolique, mais de l'angoisse, qui n'est pas un concept, mais un affect, quelque chose de l'ordre de l'éprouver. C'est ce billet qu'il prend pour tenter de cerner ce qu'il en est du réel, de ce qui est différent du symbolique et de l'imaginaire. Il part d'un affect et de la phénoménologie de l'angoisse pour faire apparaître un objet nouveau. C'est en effet dans le séminaire de l'angoisse qu'est avancé pour la première fois l'objet petit a, comme Philippe l'a déjà souligné, dont la nature est différente de celle des objets que Lacan a présenté jusqu'alors. En somme, cet objet, l'objet petit a, prend le contre-pied du séminaire 4 de la relation d'objet. Il est aussi question d'objet, bien sûr, dans le séminaire 4. D'entrée de jeu dans ce séminaire 4, ce qui caractérise l'objet, ce n'est pas sa présence, c'est son absence, et Lacan y insiste. D'où toute la mise en place de ce fameux tableau, rappelez-vous, castration, frustration, privation, dont les trois termes donc, indiquent assez bien que c'est du manque d'objet qu'il s'agit. Avec l'angoisse, l'objet va surgir dans sa modalité de présence et d'inquiétante étrangeté. Dans ses premiers chapitres, enfin le chapitre 3, 4, pour faire surgir cet objet, Lacan va s'appuyer sur l'expérience du miroir, du rapport de chacun à son image spéculaire. Pour éclairer notre lanterne, heureusement, il y a Jacques-Alain Miller qui établit le séminaire de Lacan et qui, quand un séminaire est publié, nous gratifie d'un commentaire dans son cours. C'est cette fois dans les 5 dernières séances de son cours de 2003-2004, au moment où est publié le séminaire de l'angoisse, qu'il donne des indications précieuses pour nous frayer un chemin dans ce séminaire. Vous avez déjà entendu parler du stade du miroir. Il s'agit de cette expérience infantile, jubilatoire, du petit homme devant le miroir. Il trouve devant lui un corps, plus exactement l'image d'un corps, constitué, complète, alors que lui-même se vit encore comme morcelé. En effet, il ne tient pas encore debout au moment où il fait cette expérience. Eh bien, le petit homme va investir cette image, l'aimer et aussi la détester. C'est-à-dire qu'il va l'investir de sa libido pour se l'accaparer, pour la rejoindre, pour s'y identifier. Et cette image spéculaire devient objet de son désir, qui est aussi à la base donc de la constitution du moi. L'image spéculaire donne accès à une gestalt, à la constitution d'une forme complète, harmonieuse, à la bonne forme qui sera le modèle, la matrice sur laquelle vont venir se greffer tous les objets du monde que l'enfant va rencontrer. En somme, le monde est appréhendé à partir de l'image du corps. C'est ce qui fait qu'on reste ébahi devant la beauté d'un paysage. Le paysage, c'est l'effet miroir. C'est pour ça que Freud dit que l'amour est narcissique. C'est parce que, au-delà de celle ou de celui que le sujet aime, il y a sa propre image. L'autre, le partenaire, est investi à partir de l'expérience du miroir et la libido circule entre le moi et son image. Elle lui est distribuée ou retirée. On est sur l'axe A', comme dit Lacan. Lacan indique que dans cette expérience de l'imaginaire, il y a la manifestation d'un leurre. Je le cite à la page 53. Plus l'homme s'approche de ce qu'il croit être l'objet de son désir, plus il en est en fait détourné. Tout ce qu'il fait sur cette voie pour s'en rapprocher donne toujours plus corps à ce qui, dans l'objet de ce désir, représente l'image spéculaire. Ce qui est au principe de l'investissement libidinal de l'objet, c'est en fait sa propre image. Cette dimension de l'heure, de l'imaginaire, de l'expérience spéculaire, indique que dans cette image, il y a quelque chose qui est voilé, qui manque. Il y a quelque chose qui n'est pas projeté dans l'image, qui n'est pas spécularisable. Quelque chose doit être extrait pour que l'image du corps puisse se constituer, pour que le champ visuel puisse se structurer, pour qu'un paysage puisse devenir harmonieux. Et en même temps, l'harmonie même du paysage est ce qui voile ce manque. Comme le dit Lacan, il n'y a pas d'image du manque. Ça paraît évident. Dans les termes libidinaux, ce point de manque, du côté de l'image, c'est une part de la libido qui est restée du côté du sujet et qui n'est pas entrée dans le circuit des transvasements de la libido entre le moi et son image spéculaire. Donc, toute la libido ne prend pas part au circuit. Il y a un reste qui n'entre pas dans l'imaginaire, c'est un reste libidinal. Donc, en somme, je vais dessiner le petit schéma qu'il fait. Là, on a le miroir. On a l'image du corps. I de A, qui est l'image que chacun se fait de son corps. Et l'image spéculaire, qu'il appelle I prime de A, qui est l'image dans le miroir. Et alors, donc du côté de l'image dans le miroir, il note qu'il y a un manque et il écrit moins phi. Et du côté du sujet, il écrit petit a. Petit a qui est du côté du sujet, qui ne se voit pas donc, qui n'est pas spécularisable. Donc du côté de l'autre, il y a un blanc que Lacan écrit petit moins phi, pardon. Un manque, une absence. Et ce blanc, du côté de l'autre, répond à une présence du côté du sujet. Donc, petit a. À la place de moins phi, dit-il, se profile. Alors, c'est quoi ce petit a? Bon, voilà. Voici comment il approche ce petit a qui est du côté du sujet. À la place de moins phi, se profile un rapport avec la réserve libidinale, soit avec ce quelque chose qui ne se projette pas, ne s'investit pas au niveau de l'image spéculaire, qui y est irréductible, pour la raison qu'il reste profondément investi au niveau du corps propre, du narcissisme primaire, de ce qu'on appelle auto-érotisme, d'une jouissance autiste. Donc, au manque, à l'absence dans le tableau, dans le miroir, répond une présence massive du côté du sujet, la présence d'une jouissance. Ce reste non spécularisable est présenté par Lacan au début de ce séminaire comme l'objet A du fantasme qui entre en jeu pour animer l'image spéculaire qui prendra les traits du partenaire sexuel. Il est, dit-il, support du désir dans le fantasme, mais il n'est pas visible dans ce qui constitue pour l'homme l'image de son désir. Ouais, l'objet A, donc, qui supporte le désir, le mouvement vers l'objet du désir, qui est dans le miroir, n'est pas visible. Il est du côté du sujet. Eh bien, l'angoisse est liée à tout ce qui peut apparaître à la place de moins phi. Quand quelque chose apparaît là, c'est donc que le manque vient à manquer, dit Lacan. Alors ça, c'est un renversement complet de perspective, car Freud, lui, articulait l'angoisse à la castration, donc à un manque. Lacan lui-même met en avant le complexe de castration, justement dans le séminaire 4. Toute la problématique de Hans, cet enfant phobique qui a peur des chevaux, tourne autour de la problématique de la castration. Ce qui fait dire à Lacan, c'est relevé par Jacques-Alain Miller, je n'ai pas retrouvé dans le séminaire 4, mais ça y est certainement, ce qui fait dire à Lacan dans le séminaire 4 que l'angoisse est quelque chose sans objet. Angoisse qui l'oppose à la peur, à la phobie, qui met en jeu, elle, un objet qui permet de nommer, de mobiliser, d'articuler, de localiser. L'objet phobique devient insignifiant, insignifiant à tout faire, dira Lacan. Mais dans le séminaire L'angoisse, c'est pas du tout l'angoisse de castration qui est en jeu. Au contraire, ce que Lacan appelle moins phi dans le schéma du miroir, donc du côté de l'image spéculaire, c'est là la maison de l'homme, dit-il. C'est ça qui s'appelle le Heim. Ça, c'est un terme allemand. On va le retrouver plus tard. On va le mettre de ce côté-ci. Le Heim, c'est le familier en allemand. Ce terme vient du titre que Freud donne à son article qui traite de l'angoisse. Un de ces articles, puisqu'il y a aussi inhibition, symptôme, angoisse, mais il y en a d'autres, sous la forme de phénomènes étranges et inquiétants. Ce titre en allemand, c'est Das Unheimliche, traduit par l'inquiétante étrangeté. Donc le Heim vient de Unheimlich. Le Heim, c'est le familier, c'est là où on est le plus chez soi. Eh bien, là où on est le plus chez soi, dans le rapport à l'image spéculaire, c'est là où il y a moins fi. C'est là où il y a un manque, une absence. Jacques Anamillet reprend ça en faisant remarquer que finalement, le miroir fonctionne comme un voile qui empêche le sujet, comme l'autre, de voir l'objet petit a dans les conditions normales. En cela, le champ visuel est décrit comme anxiolytique. C'est dans ce champ-là que le sujet est le plus rassuré quant à l'angoisse, parce que c'est dans ce champ donc imaginaire, visuel, que l'objet est le plus recouvert. Alors, l'angoisse survient quand justement un objet surgit là où il ne devrait pas, à la place de moins phi, quand le manque vient à manquer. C'est-à-dire donc que l'angoisse n'est plus sans objet. Au contraire, Lacan dira donc à ce moment-là, dans ce séminaire, que l'angoisse n'est pas sans objet. Ou d'une certaine façon, l'angoisse surgit quand l'objet qui est du côté du sujet invisible surgit dans le champ à la place de moins phi. Dans le champ spéculaire. L'angoisse n'est plus alors liée à une absence, mais bien à une présence. Une présence étrange et inquiétante qui perturbe le champ visuel. Cela correspond d'ailleurs à la définition qu'en donne Freud dans l'inquiétante étrangeté. Serait unheimlich tout ce qui devait rester secret dans l'ombre et qui en est sorti. Et on peut inférer de ce qui a déjà été déployé, donc jusque maintenant, que cet objet qui surgit est de nature spéciale, ce n'est pas un objet symbolique, caractérisé par la marque de l'absence, mais c'est un objet qui ressortit à cette jouissance auto-érotique, autistique, comme l'indiquait Lacan. On pourrait ajouter, bien sûr, donc, à la pulsion, pour reprendre le terme freudien. Un objet des plus intimes, donc, et aussi des plus étranges et inquiétants. Pour illustrer cela, je vais reprendre quelques morceaux du conte auquel Freud fait référence dans son article L'inquiétante étrangeté, qui s'appelle donc le conte qui s'appelle L'homme au sable, écrit par Hoffmann, écrivain romantique allemand du début du XIXe siècle. Je vais en reprendre quelques passages. Nathanaël, je ne vais pas le reprendre en entier, vraiment seulement des morceaux. Nathanaël, étudiant, évoque un souvenir d'enfance lié à la mort de son père. Souvent, au moment d'aller dormir, sa mère lui disait « L'homme au sable va venir. » Et en effet, Nathanaël entend chaque fois le pas d'un visiteur qui vient rendre visite à son père. L'homme au sable, c'est qui ? L'homme au sable, c'est une créature qui vient auprès des enfants quand ils ne veulent pas aller au lit. Il leur jette du sable dans les yeux, de sorte que ceux-ci jaillissent de la tête tout sanglants. Il les donne alors à dévorer à ses propres enfants. C'est l'histoire que lui raconte la bonne. Bon. Nathanaël, qui n'a pas froid aux yeux, si j'ose dire, décide de se rendre compte par lui-même de ce qu'il en est. Il épie son père un soir et découvre que le visiteur n'est autre qu'un avocat ami de la famille, dénommé Coppelius, personnage repoussant qui avait la méchante habitude de faire peur aux enfants quand il les croisait. Pour Nathanaël, c'est clair. Coppelius, c'est l'homme au sable. Coppelius et le père s'affairent autour du feu, et soudain, Nathanaël entend. Coppelius s'écrie : par ici les yeux, par ici les yeux. Il pousse un cri et est découvert par Coppelius. Celui-ci l'attrape et veut prendre des braises pour les lui répandre dans les yeux et les jeter ensuite dans le feu. Le père demande et obtient la grâce pour les yeux de son enfant. Cette expérience se conclut par une syncope et une longue maladie. Ça, c'est le souvenir d'enfance. Devenu étudiant, Nathanaël croit reconnaître cette figure d'effroi sous les traits d'un opticien ambulant. Il s'appelle Coppola. Coppelius, Coppola, on entend déjà l'assonance. Il lui achète une longue vue. Une longue vue de poche avec laquelle Nathanaël va épier l'appartement qui est situé en face, où habitent un professeur et sa fille Olympia. Tellement belle qu'il en éprouve un coup de foudre et en oublie sa fiancée. Mais Olympia est tellement belle que c'est un automate construit par le professeur et dans lequel l'opticien, le Coppola en question, alias l'homme au sable, a inséré les yeux. Coppola et le professeur se disputent Olympia. Le premier part avec le robot sans ses yeux et le second ramasse les yeux sanglants d'Olympia qui traînent sur le sol et les jette sur Nathanaël en disant que Coppola les a volés à Nathanaël. Nouvelle crise de folie, nouvelle longue maladie. Bon, j'arrête là avec le conte. Allez lire dans Freud, c'est quand même pas mal. Ça se termine mal pour Nathanaël, puisqu'à un moment donné, il se jette dans le vide. Cette scène me semble donc illustrer très bien ce qu'articule Lacan. On voit bien ici la structure en miroir. C'est l'appartement en face que le sujet regarde et il s'approche de l'objet de son désir avec sa longue vue. Olympia. Et au plus il l'approche, au plus c'est sa propre image qui se présente. Freud, dans une très belle note donc de ce texte, indique l'identité d'Olympia et de Nathanaël. Il en veut pour preuve cette parole du professeur à Nathanaël qui lui jette les yeux donc tombés d'Olympia. Donc il lui dit « Ce sont les tiens, ce sont ceux de Nathanaël. » Nous sommes autorisés, dit Freud, à qualifier cet amour de narcissique. Et dans cette scène, l'objet qui surgit, ce sont les yeux. Ce que Lacan va appeler, pas ici, mais plus tard, le regard. Car le regard, eh bien en fait, il est d'abord du côté du sujet. Il est d'abord du côté de Nathanaël, qui se rapproche de l'objet de son désir par le biais de sa longue vue. C'est donc le regard, objet d'une jouissance auto-érotique, qui se satisfait dans cette scène et qui surgit dans le tableau, détaché, alors qu'il devrait rester caché. Bon, il y aura encore beaucoup à dire sur ces phénomènes de miroir, notamment à propos des phénomènes de double que Lacan souligne, comme Freud d'ailleurs, dans l'inquiétante étrangeté. L'irruption de cet objet, différent des autres dans le champ spéculaire, l'objet A, provoque des perturbations au niveau de l'image spéculaire. Il s'empare d'elle, au point qu'elle peut s'autonomiser, en quelque sorte, et devenir l'image d'un double. Olympia, d'ailleurs, est en somme le double de Nathanaël, dans l'homme au sable. Bon, je ne vais pas m'attarder plus sur ce sujet, donc du miroir, parce qu'il faut que j'en arrive à la phrase que je dois commenter. Hein. Donc ce que je voulais amener surtout, c'est ce premier mouvement du séminaire de l'angoisse, qui cherche un passage, comme le dit Lacan, entre l'angoisse de castration, donc liée à un objet négativé chez Freud, et la tentative de Lacan d'isoler, comme cause de l'angoisse, un objet qui n'est pas négativé, mais qui est positivé, qui n'est pas absence, mais présence, et qu'il appelle l'objet petit a. Ce passage n'est pas évident. Comme l'indique Miller, qui sait de quoi il parle, ce séminaire est un chantier. Les choses ne sont pas tranchées à l'avance et on voit Lacan travailler devant nous dans son séminaire. Il avance pas à pas. Et cet au-delà du complexe de castration ne veut pas dire non plus que cette histoire de la castration ne vaut plus et qu'elle est bonne à jeter à la poubelle. Non, non. Elle vaut, mais Lacan veut faire un pas de plus. L'angoisse demande que quelque chose entre en jeu qui n'obéisse pas à la logique du complexe de castration. Freud, lui, donne une interprétation oedipienne du conte de l'homme au sable. Tout à fait articulé à la castration. L'angoisse, pour lui, est liée à la crainte de perdre ses yeux, substitut de la crainte de castration. L'homme au sable, de son côté, représente le père, redouté, dont le sujet attend la castration. Et d'ailleurs, tous les protagonistes du conte, l'homme au sable, sont autant de personnages paternels, le père bien sûr, mais Coppelius est lui-même, le professeur, dont dans le texte il est noté que c'est le père d'Olympia, et l'opticien Coppola aussi. Donc, Lacan tente de se frayer un passage pour aller au-delà du complexe de castration. Une fois qu'il a situé, et j'en viens à ma phrase, pas tout de suite, mais presque, j'arrive à la page. Une fois qu'il a situé cet objet A, positivé, qui surgit là où il devrait rester voilé, il fait une petite série. Nous sommes à la page 67. D'abord l'objet oral. Lacan demande, qu'est-ce qui angoisse ? La nostalgie du sein maternel ou son imminence ? Sa présence ? Ce n'est pas l'alternance de la présence-absence de la mère qui angoisse. La preuve en est que l'enfant joue dans l'expérience du Forda. Comme il dit, Lacan, la possibilité de l'absence, c'est ça la sécurité de la présence. L'angoisse, je le cite, l'angoisse, c'est quand le rapport au manque qui fait le désir est perturbé, et il est le plus perturbé quand il n'y a pas de possibilité de manque, quand la mère est tout le temps sur son dos, et spécialement à lui torcher le cul. Hein, je le cite, parce que je trouvais que c'était modèle de la demande qui ne saurait défaillir. Vraiment, il n'y a pas d'écart. On peut penser d'ailleurs aussi à l'anorexie, où le sujet a affaire à un objet oral qui n'est pas symbolisé, qui n'est pas le symbole du don d'amour de l'autre, mais qui est ravalé à l'objet du besoin qui va gaver l'enfant, lui-même réduit à un objet. Présence réelle de l'objet oral, angoissante, à laquelle le sujet ne peut que répondre par un refus catégorique. Après l'objet oral, la castration proprement dite. La prétendue perte du pénis. Dans le cas du petit Hans, l'accent est mis sur le fait que l'angoisse viendrait de l'interdiction par la mère des pratiques, de ses pratiques masturbatoires. Lacan rétorque que c'est bien connu, l'interdit suscite le désir, de par le manque à jouir qu'il instaure. L'angoisse de Hans ne vient pas de la menace de la mère. De mémoire, donc, ce que disait la mère à Hans, c'est « si tu continues à faire tes saloperies, je vais appeler monsieur M qui va te la couper ». Ce qui met en scène, donc, évidemment, la menace de castration. Donc Lacan réfute cette idée-là. Ce n'est pas indiqué ici dans le séminaire de l'angoisse. Mais Lacan le note à plusieurs reprises, et notamment, je crois, dans la conférence sur le symptôme, à Genève. Il dit ceci. « Ce qui angoisse Hans, c'est l'érection de son organe, l'érection dans son corps d'une jouissance énigmatique, une maturation réelle, développementale, reprend Jacques Alain Miller, qui fait vaciller son monde. » Donc là, ici aussi, une présence et non pas un manque. Et c'est là que Lacan amène le surmoi. Passons à l'étape suivante, dit-il, celle de l'amour du surmoi. Donc je reprends la phrase. Avec tout ce qu'il est censé comporter dans la voie dite de l'échec, qu'est-ce que cela veut-il dire sinon que ce qui est craint, c'est la réussite ? C'est toujours le « ça ne manque pas ». Et la phrase qui suit, c'est « je vous laisserai aujourd'hui sur ce point ». Bref, débrouillez-vous. Bon, donc, il a bien fallu essayer de se débrouiller pour ce soir. Bon, alors, j'ai encore un peu de temps, oui. Je me suis appuyé donc sur deux textes de Freud pour essayer d'appréhender cette question de la crainte de la réussite et cette question du surmoi. Deux textes de Freud. Le premier, c'est qui est intitulé « Quelques types de caractères dégagés par le travail psychanalytique ». C'est un texte de 1916. Paru dans le même livre que « L'inquiétante étrangeté ». Et deuxième texte, « Le moi et le ça » de 1923, paru dans les essais de psychanalyse. Le premier texte est subdivisé en trois parties. Dans la seconde, s'intitule « Ceux qui échouent du fait du succès ». Voilà, on retrouve notre thème, notre phrase, la crainte de la réussite. Freud le souligne, il arrive à des hommes, ou des femmes, de tomber malade au moment où un désir, intimement fondé et longuement nourri, est parvenu à son accomplissement. Ça rejoint ce qu'indique Lacan. La réussite fait que ça ne manque pas. Enfin, ça ne manque plus. L'objet du désir a été atteint. D'une certaine façon, la réussite fait que le manque manque, et alors intervient l'angoisse. La difficulté ici pour moi, ça a été de repérer peut-être l'objet qui surgit à ce moment-là. Quel est l'objet qui surgit dans ce moment d'angoisse de la réussite ? Ici également, Freud présente les choses à partir d'un texte, une pièce de théâtre, intitulée, je ne sais pas si je prononce bien, Rosmersholm, qui est une pièce de théâtre écrite par Ibsen, écrivain norvégien à la fin du XIXe siècle. C'est donc un contemporain de Freud. Je n'ai que quelques minutes pour vous raconter la pièce. Oh, ça va se resserrer. Bon. Rebecca, après le décès de son père adoptif, rentre au service de la famille Rosmer, dont le maître est pasteur et la femme, dit Freud, malade et sans enfant. Très vite, Rebecca veut prendre la place de cette dernière auprès du pasteur et elle se montre très déterminée. Elle veut réussir, ne présentant aucune hésitation pour parvenir à ses fins. Pour cela, elle pousse la femme du pasteur au suicide. Et pendant des années après, Rebecca reste auprès du pasteur dans une relation qui, après tout, lui, le pasteur, veut considérer comme une amitié spirituelle et amicale. Mais la rumeur paraît et le pousse à demander Rebecca en mariage. C'est à ce moment-là qu'elle refuse contre toute attente. C'est un refus net et sans appel, insiste Freud. Ce ne sont pas des mièvreries pour se faire désirer. Voici ce qu'elle dit elle-même. Ce qu'il y a d'horrible, c'est que le bonheur est là. La vie m'offre toutes ses joies. Et moi, tel que je suis maintenant, je me sens arrêté par mon propre passé. Pourquoi ? Le premier motif qui est avancé, c'est qu'entre-temps, elle a acquis auprès du pasteur Rosmer une conscience morale, une culpabilité, sous l'effet du pasteur, ce qui la frustre de sa jouissance. Donc elle a été transformée par le pasteur, d'une certaine façon. Mais, dit Freud, la vraie raison est ailleurs. Elle apprend, suite au refus, à son refus de se marier avec le pasteur, qu'elle est la fille de son père adoptif. Ce qui la confronte à un point d'horreur, car elle était aussi la maîtresse de cet homme. Freud retrouve donc là les voies de l'Œdipe. Une fois que Rebecca découvre qu'elle a été la maîtresse de son père, le sentiment de culpabilité l'envahit et lui fait renoncer à ce qu'elle a poursuivi de toute son âme. Et donc Freud présente le sentiment de culpabilité ou la conscience morale comme tirant son origine, comme une conséquence du complexe d'Œdipe. Dans le second texte, Le moi et le ça, Freud théorise le surmoi. C'est dans ce texte qu'il met en place, vous le savez, sa seconde topique, le ça, le moi, le surmoi. Alors, il tire de l'expérience de la mélancolie le fait que la perte d'un objet pousse à l'identification à cet objet. Le refoulement du lien œdipien entraîne également une perte, celle du lien libidinal qu'entretient l'enfant avec son ou ses parents, premiers objets libidinaux. Et donc, il y a une identification au trait de ces objets parentaux par l'enfant. Cette identification entraîne un déplacement de la libido des objets extérieurs, donc les parents, vers le moi. Donc il s'est identifié aux parents. Donc ce moi qui s'est constitué à partir de ces identifications. Et donc, ces identifications sont investies par la libido, sont investies par le ça. Ça, c'est un point important. Et elles vont devenir idéales pour l'enfant. Et l'adulte qu'il sera, donc l'enfant et l'adulte qu'il sera. Et donc ces identifications, dit Freud, vont se transformer en instances idéales. Mais cela veut dire aussi en instances de surveillance du moi. En somme, Freud présente un surmoi qui a deux versants. Le premier versant, c'est l'idéal qui pousse vers un « tu dois être comme lui ou elle ». Reste des investissements des objets primordiaux de l'enfant. Mais le second versant, c'est un « tu n'as pas le droit d'être comme lui ou comme elle ». Et là, on entend déjà quelque chose qui peut pousser à l'échec. Pourquoi ce second versant? Parce que, dit Freud, l'idéal du moi est une formation réactionnelle à l'Œdipe. Et que le père, qui a été un obstacle au désir œdipien de l'enfant pour sa mère, si on prend le cas d'un garçon, restera un obstacle une fois l'identification produite. Il restera toujours un obstacle aux aspirations du moi. Le surmoi gardera le caractère du père. Freud donne à ce surmoi un caractère d'impératif catégorique, de férocité. Il y a une rage du surmoi à maltraiter le moi. Et au plus le moi s'y soumet, au plus le surmoi en veut, au plus il se montre intraitable. En fin de compte, le moi, à l'égard du surmoi, ne peut pas y arriver. Il est toujours nul, toujours insuffisant. Il ne peut pas réussir. Le moi est toujours en défaut, d'où l'instauration du sentiment de culpabilité. Nous rejoignons ici donc la phrase de Lacan. L'amour du surmoi conduit à l'échec. Ce qui n'est pas encore clair ici, c'est en quoi le surmoi met en présence de l'objet A qui suscite l'angoisse. Faisons une hypothèse. Je terminerai par là. L'origine œdipienne, libidinale du surmoi, donc c'est ça qui est important à saisir. C'est pas simplement les idéaux, les commandements des parents qui sont... Ça a une origine libidinale, pulsionnelle en fait. Et c'est cette origine libidinale du surmoi qui lui confère sa force et sa puissance. L'origine du surmoi se trouve dans le ça que Freud articule aux pulsions. C'est la voie par laquelle, me semble-t-il, on peut retrouver ce que Lacan disait de l'objet A. C'est qu'il a un lien direct avec la jouissance auto-érotique. Donc la pulsion, ce n'est pas le désir. La pulsion, c'est ce qui veut se satisfaire à tout prix. La pulsion, elle veut jouir. Elle est éminemment auto-érotique. Eh bien, le surmoi, dit Freud, c'est la pulsion qui s'en prend au moi et qui se satisfait de le détruire. Le surmoi, c'est la pure culture de la pulsion de mort. Je le cite là. L'échec, en somme, ça vient nourrir le surmoi. Mais y a-t-il un objet propre au surmoi? C'est une question que je me suis posée. Un objet propre au surmoi, comme il y en a un dans le champ visuel qui est le regard. Bien sûr, il y a le regard inquisiteur et jugeant de l'autre, l'autre qui vous a à l'œil, l'autre qui vous surveille. Mais peut-être puis-je proposer ceci à partir de l'expérience des psychoses. On sait que les hallucinations sont des phénomènes de pensée que le sujet ne peut subjectiver et qu'il fait revenir du dehors. Les injures que le psychotique entend et qui lui sont adressées sont donc issues du surmoi qui est extériorisé. Eh bien alors, l'objet privilégié du surmoi, même si probablement ça n'est pas le seul, ce serait peut-être bien la voix, l'objet voix. C'est la voix du père dans l'inconscient qui surgit pour interdire et ordonner, et empêcher l'accès à la réussite. Petite réflexion, après ça, j'ai pensé à la phrase de Lacan qui parle du psychanalyste dont il dit qu'il s'autorise de lui-même. Je trouve que ça faisait écho à cette histoire du surmoi et que pour pouvoir s'autoriser de soi-même, enfin d'abord c'est pas une mince affaire, il faut quand même déjà s'alléger de ce surmoi. Bon, je vais rester là-dessus.
Bien, je voudrais remercier Philippe Lebois et Guy Poblom pour leur exposé. Je trouve que d'emblée, dans ces quatre premières séances du séminaire, on sent effectivement que Lacan est au travail et donc il nous met au travail. C'est extrêmement riche, y compris en référence en tout genre, dans ces premières séances. Essayer de rassembler ça autour de questions en est d'autant plus complexe, me semble-t-il. Cependant, en voyant d'une part ce que Philippe amenait avec l'éros, avec l'amour, et ce que Guy Poblom amenait avec l'amour du surmoi particulièrement féroce, au fond, c'est peut-être là qu'on pourrait trouver le lien et la suite dans vos deux exposés. Et j'étais à la fois surprise et agréablement surprise par la proposition que vous faisiez, Guy Poblom, sur la question de la voix dans les hallucinations, parce que à lire ces premiers chapitres, au fond, la place vide où vient se loger cet objet-là, je me disais, mais que fait justement le psychotique dont Lacan dit qu'il a son objet dans sa poche, mais au fond, où il n'y a pas de place du manque, pourrait-on dire. Et donc voilà, c'est peut-être une question qui m'est venue en vous entendant clore ici l'exposé et à la lecture des séminaires ici. D'ailleurs, Lacan, dans ses chapitres, esquisse une mise en situation de l'angoisse chez le névrosé ou chez le pervers. Je suppose qu'il parlera plus tard de ce que ça devient au niveau d'une structure comme celle de la psychose, mais d'emblée, le fait que il faut un manque et que l'angoisse surgit quand il n'y a pas le manque du manque renvoie à la question de comment le psychotique traite-t-il l'angoisse. Voilà.
Je dirais mal comme tout le monde. Peut-être plus spécialement mal, parce que tout de même, la structure psychotique est une structure où l'angoisse est, si on prend la logique de tout ce séminaire, tout ce qu'on vient de dire, l'angoisse dans une structure psychotique est nettement plus forte. Vovdi traite mal, parce que forcément, elle est plus grande, elle est plus forte, elle est plus invasive, elle est... Et souvent, quand on fait de la clinique, forcément, on recourt à la psychose, parce que comme les choses sont plus fortes, les choses sont évidemment développées, exagérées, donc plus claires. l'apparition, comme disait, comme commentait Guy, de l'objet là où devrait plutôt manquer. Enfin, pour rien que Lacan prend des exemples, même dans la littérature, de cas de manifeste de psychose, par exemple. L'homo sale, on peut discuter, mais il prend un autre cas qui est paradigmatique, qui est le cas du Horla de Maupassant. La dernière œuvre qu'a écrit Maupassant, avant d'entrer à l'asile, effectivement, là, on voit vraiment un trouble des relations spéculaires, c'est qu'il se voit de dos. Là, on voit bien que le côté gauche-droite du miroir, etc., tout ça n'existe plus, c'est vraiment l'apparition de l'objet même dans le miroir. Alors, la voix et le surmoi, oui. Il y a aussi des voix dans la névrose. Sauf que les voix dans la névrose ne se passent pas au même endroit. Elles n'ont pas comme ça cette dimension sonore, réelle. C'est repris dans le filet des signifiants. Mais. Bon. Je ne sais pas ce que Guy en pense, mais pour l'instant, c'est vraiment que le phénomène dit jouissance, la psychose, est évidemment poussé à des extrêmes qui évidemment n'apparaissent pas, que le névrosé évite. Ce qui fait aussi parfois la fascination du clinicien, du reste, pour ce phénomène-là. Il faut, je pense, toujours se garder.
Oui, donc, en effet, je pensais à deux phrases par rapport à la question de la psychose. C'est donc... dans la psychose, on a affaire à l'inconscient à ciel ouvert. Donc c'est-à-dire que ce qui est... c'est d'ailleurs pour ça que Lacan fait une petite note. Freud dit qu'il se réfère à des contes. Pourquoi ? Parce que c'est difficile pour lui d'aborder ça à partir de sa clinique, et donc on comprend bien. Mais Lacan dit que ce n'est pas seulement ça, c'est qu'aussi il y a quelque chose qui, dans la fiction... est quand même mise en avant de façon plus radicale que dans les scènes de la vie de tous les jours, où c'est beaucoup plus fugitif, dit-il. Et là, il ne parle pas de la psychose. Il dit c'est beaucoup plus fugitif. Et c'est pour ça que la fiction, caricature cette phénoménologie du surgissement de l'objet. Bon, voilà. Donc ça, c'est une chose. Mais il est vrai que dans la psychose... donc en effet, c'est à ciel ouvert. Enfin, et ce qui, je trouve que ce petit schéma là que Lacan utilise permet quand même de comprendre ce qui se passe dans la psychose, que cette fameuse phrase, donc ce qui est fort clou du symbolique fait retour dans le réel. C'est-à-dire, on voit bien que ça surgit à un endroit, de l'extérieur, là où ça devrait pas, d'une certaine façon. Oui. Voilà. Dans la névrose, l'objet est plutôt voilé, caché, plutôt c'est un creux même, à un moment donné. Donc, ça l'est d'ailleurs. C'est l'objet qui structure le fantasme, et donc le désir du sujet, c'est un creux, c'est un trou. Et les moments d'angoisse, c'est quand ça traverse, mais c'est très fugitif, d'une certaine façon.
Guy a bien fait de relire ce passage-là qui est très beau. La possibilité de l'absence, c'est ça. La sécurité de la présence. Alors. Mais le drame de la psychose, c'est que cette phrase ne vaut pas pour ces structures-là. Alors. C'est très bien dit, c'est comment est-ce qu'on supporte notre présence mutuelle, parce qu'on sait que l'absence est là, et non pas le contraire. L'absence, la voilà, comme disait Reggiani, enfin seul. Eh bien, excusez-moi, mais... pour l'enfin seul, mais il y a quelque chose, c'est l'absence qui permet de nous supporter. Eh bien, sauf que cette absence, la psychose, c'est ça qu'on doit au symbolique, l'absence. Lacan reste encore dans ces termes-là après. À la fin de l'enseignement de Lacan, l'absence est un thème qui lui-même semble disparaître. La jouissance est partout. Et donc l'absence, Mais enfin, bon, ici, dans le fond, on a pu prendre ce qui est craint, c'est la réussite. C'est une phrase qui fait, quand on découvre Lacan, qu'on lit ça, ce qui est craint, c'est la réussite. C'est un des premiers séminaires que j'ai lu de Lacan, j'étais très jeune. Et bien, ce qui est craint, c'est la réussite. On trouvait même ça à l'époque, c'était la Stélo. C'est une phrase qu'on voyait déjà, évidemment, moins mise en lumière que là. Ça faisait un choc, mais la possibilité de l'absence, c'est ça, la sécurité de la présence, ça, c'est même plus poétique. Parce que c'est vraiment...
Est-ce que vous avez des questions? C'est une question pour Guy. Juste une petite précision par rapport à ce que tu disais juste à la fin, là, quand tu tournais autour du surmoi, l'objet voix, la voix du Père qui surgit dans l'inconscient. Alors, quand tu parlais du côté surmoïque comme ça, est-ce que c'est pas plutôt du côté de la... ou c'est moi qui n'ai peut-être pas bien compris, du côté de la voix du Père qui dit non? Et est-ce qu'on n'oublie pas, est-ce qu'on n'ôte pas du coup le côté, l'au-delà de l'Oedipe, où il y a aussi la voix du Père qui dit oui? Enfin, voilà. Tout ça, ça me faisait rebondir par rapport à ce que tu disais juste après. L'analyste ne s'autorise que de lui-même. Où là, il y a le côté autorisation. Et chez le Père, enfin, comme dit Lacan, il y a le côté la version où, bien sûr, il doit dire non, mais il y a aussi le second temps où il doit dire oui. Enfin, voilà, je ne sais pas si tu peux compléter par rapport à... Voilà.
Donc Lacan cherche une voie de passage. Et donc... C'est pas tranché, enfin, je veux dire, c'est pas si évident que ça pour lui. Et donc, quelques pages auparavant, donc il met l'angoisse en lien avec la question du désir de l'autre, et donc le manque dans l'autre, etc., donc avec la castration. Bon. Oui, je sais pas, Freud présente ça comme... lui aussi, il présente deux versants sur moi. Tu deviendras ce que papa n'était pas. Donc, c'est le versant oui, mais avec sa dimension identificatoire et de commandement. Et aussi, en même temps, tu ne peux pas devenir ce que... Donc, ces deux versants, on les retrouve déjà chez Freud. Enfin, ça m'a frappé, ça, d'une certaine façon, que ce qu'on retient du surmoi, l'espèce de slogan lacanien, c'est le joui du surmoi. Et en effet, je veux dire, la dimension pulsionnelle du surmoi, c'est fait pour sa jouissance. Donc, c'est... Le surmoi travaille pour sa propre jouissance et rien d'autre. Mais on trouve ces deux versants déjà chez Freud, et moi ça m'a frappé, ça. Enfin, ce côté en même temps, c'est le côté idéal du moi, donc l'idéal à atteindre, et en même temps le côté non, tu n'y arriveras pas.
Ce texte est exactement en mémoire, mais dans ce que tu disais, en tout cas, apparaissait bien le côté déchaînement.
Absolument, il dit. Hein?
Et pas du tout le côté interdicteur. Hein? Et pour le dire encore autrement, s'il y a interdiction, c'est sous forme de déchaînement. Et dans ce que tu disais, vraiment, ce qu'il faut vraiment, je pense, souligner, finalement, c'est cette dimension du déchaînement. Et c'est ce qui est le plus dur, je pense, à attraper dans le surmoi. Comme vous en parlez, je trouve que ça me paraissait vraiment assez lumineux. C'est que vraiment, le surmoi est une force de déchaînement, mais... non pas au service de l'interdiction, mais au service du déchaînement, au service de la jouissance. Et donc l'interdiction, après tout, être sous le coup d'une interdiction, être sous le coup de il n'y a jamais que des auto-reproches. Hein? Tout ça, c'est une façon de jouir. Hein? Alors, l'échec là-dedans, moi, ce qui me paraissait aussi intéressant, c'est que l'échec... c'est pas référable au père, justement. C'est plutôt, me semble-t-il, référable au sujet. C'est une façon de se défendre contre la jouissance, l'échec. Enfin, ça peut aussi être ça. Mm-hmm. Évidemment, on peut l'entendre aussi comme le déchaînement de la jouissance, de l'échec, il y a ça aussi. Et puis, enfin, les deux faces sont là, je pense. Si on veut prendre deux faces, c'est bien de les prendre du côté jouissance et du côté de la façon dont le sujet s'en défend. Si ce qui est craint, c'est la réussite, il y a aussi une dimension. Ça, c'est la clinique qui décide, selon le cas en question. Hein, parce que sinon, il y a des cas où, après tout, si le déchaînement du surmoi, c'est l'échec, alors c'est la réussite comme symptôme pour se défendre de la jouissance de l'échec. Alors qu'il me semble, une des dimensions qu'il amène ici, c'est plutôt l'inverse. C'est que L'échec, me semble-t-il, c'est une façon aussi pour le sujet de se défendre contre la jouissance qu'amène la réussite.
Voilà. Oui. Oui, parce que la réussite peut faire des ravages.
Absolument. Absolument. Ça, c'est exactement. Exactement. Oui. Et il me semble que dans ce symptôme névrotique comme ça, de type qui vraiment, ou de femmes qui échouent devant le succès, c'est vraiment, ils ont peur du. Enfin, il y a un côté vraiment, pour le coup, peur du succès.
Oui, c'est ça. Donc, c'est entendre en effet tout à fait l'angoisse comme signe d'un réel.
Absolument.
Voilà. Donc, c'est l'angoisse devant la réussite comme signe d'un réel. Donc, signe d'un réel. D'une jouissance. Enfin, donc en effet, il y a quelque chose qui fait barrage, là. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et pour revenir à la question de. Du père qui dit non, qui dit oui, tu as fait raison de reprendre ça du côté du déchaînement. D'ailleurs, Lacan ici dit que ce qui est en jeu, c'est pas du tout l'interdit. En effet, au contraire, l'interdit, ça fait manque et ça oriente le désir d'une certaine façon. Ça rend l'objet désirable et que c'est pas ça qui est en jeu dans l'angoisse. C'est pas l'interdiction. C'est plutôt en effet le que tu relevais donc cette dimension d'impératif catégorique. C'est pas la même chose. On en a parlé dans le séminaire de l'éthique, d'ailleurs, de ça. Hein, je veux dire, de l'impératif catégorique comme une figure de Das Ding, de la chose.
Même ton pasteur n'interdit rien, même ton pasteur est déchaîné. Hein, c'est le. Etc. Enfin, il y a un côté comme ça. Enfin, le père adoptif viole, etc. Enfin, bref, on est dans le déchaînement.
Absolument.
L'interdiction, c'est un semblant de plus.
Bien, je vais vous proposer d'en rester là pour aujourd'hui parce que les portes risqueraient de se fermer. Nous nous retrouvons le 21 novembre pour accueillir Dominique Holvoet et Béatrice Brault. Merci à vous. Et merci aux conférences.